Bonjour, bienvenue, vous êtes sur Direct News, le podcast, une émission enregistrée le 13 juin 2012 sur les ondes de Radio Cité Genève. Aujourd'hui, le milieu défensif et arrière latéral de l'équipe de France, championne du monde de football, Christian Carambeu est mon invité. Carambeu, né le 3 décembre 1970 en Nouvelle-Calédonie, champion du monde en 98, on s'en souvient bien, aux côtés entre autres de Zidane, Deschamps et Henry, champion d'Europe aussi en 2000 et également deux fois vainqueur, rien que ça, de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, sans oublier la Légion d'honneur remise par l'ancien président Jacques Chirac, c'était en 1998. Le Kanak, ex-mari également d'Adriana, nous parle de son enfance en Nouvelle-Calédonie, son départ très jeune pour la France au FC Nantes, ses débuts comme gardien de but, son passage trop court au Servette FC, sa vie de résident en Valais à Champéry, et pour terminer, il nous révèle qu'il passerait volontiers une nuit avec Dieu, là aussi rien que ça. Mais pour commencer, eh bien Christian, si tout cela était à recommencer, recommenceriez-vous la même chose?
Largement, non. Moi je crois qu'il faut laisser les choses se faire, le destin se faire. Je me suis construit ainsi, avec des paramètres de part et d'autre, dans un environnement qui m'est été donné. Et donc voilà, avec des outils qu'on m'a donné, une culture qu'on m'a inculquée. Et non, au contraire, je ne regrette rien de mon parcours. Je préfère la garder telle qu'elle. Oui.
Vous êtes carrément fier de ce parcours?
Fier, j'espère un jour être fier pour pouvoir le témoigner. Parce que pour moi, chaque histoire doit être un témoin pour d'autres générations qui viennent. J'espère être un modèle, en tout cas, oui. Et peut-être fier d'avoir accompli quelque chose. Mais je crois encore une fois qu'il faut savoir aussi donner comme héritage ce qu'on a reçu. Donc oui, fier pour dire que oui, positivement, j'ai toujours été optimiste. Les valeurs qu'on m'a inculquées, j'ai voyagé avec, que j'ai envie de retransmettre. Oui.
Si on parle des meilleurs moments, évidemment que c'est difficile, hein, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est une carrière énorme. Hein. Il y a eu la Coupe du Monde, il y a eu l'Euro, il y a eu le Real de Madrid, la Ligue des Champions, mais il y a eu aussi, hein, on en reparlera tout à l'heure, le début de votre carrière, exact, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Hein, il y a eu chez vous, en Nouvelle-Calédonie,
et Nantes. Les fondations sont là. Les fondations,
bien sûr, et Nantes qui vous a permis d'exploser. Est-ce que, justement, les meilleurs moments, finalement, ce sont lesquels? Ce sont les plus grands moments, ou ça peut aussi être des moments dans un petit club, hein, qui était le FC Nantes de l'époque?
Même bien avant le FC Nantes, c'est-à-dire que quand je me construis, c'est avec mes amis, mes camarades de classe, d'abord en Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y a des tournois interquartiers, où là j'ai pu, je dirais, trouver des gestes techniques, des gestes défensifs, des gestes physiques, et bien sûr, par la suite, être repéré par un CTR, un conseiller technique régional, en l'occurrence Marc Cagnon, qui a été aussi un joueur de foot, qui m'a donné l'idée, mais l'idée, elle est juste une idée. Après, de là à le pratiquer, de là à être éduqué. Le foot, c'est aussi une culture, c'est aussi un apprentissage de la vie. Donc, mes parents m'ont tout donné, et par la suite, bien sûr, être intégré au centre de formation de la Genelière, c'était une autre étape de ma vie. Et Dieu sait que j'ai beaucoup appris sur place avec les Coco Ciudo, les Reynald Nouex et tant d'autres éducateurs et formateurs qui m'ont justement donné les outils pour réussir.
Oui. Christian Carambeu, si on revient justement sur les meilleurs moments, une image forte, laquelle, comme ça, celle qui vous vient en premier à l'esprit, ou quand vous parlez avec quelqu'un qui n'a pas la chance de connaître votre carrière, qu'est-ce que vous lui racontez? Qu'est-ce qui vient en premier? C'est dur, hein?
Oui, parce que...
ça se bouscule.
Non, parce que je vis à 100% le jour le jour. C'est-à-dire pour moi, chaque journée est intense.
Mais vous pensez souvent au passé, c'est des images qui reviennent comme ça, ou vous êtes un homme du présent et du
futur? Oui, je suis un homme du présent, mais le passé m'a toujours forgé pour apprécier au mieux le présent. Il est vrai qu'il est évident que moi, dans ma jeunesse, j'ai connu des périodes difficiles, à savoir que la Nouvelle-Calédonie, bien sûr, politiquement, n'était pas, je dirais, en phase avec une jeunesse qui est en devenir, et que malheureusement, il y a eu des conflits politiques, et donc difficile pour jeunesse de comprendre. Donc heureusement que le foot m'a fait venir en Europe pour voir la vie autrement et devenir un homme, parce que c'est vrai, à 17 ans, encore adolescent, mais en même temps, voilà, le foot m'a permis d'être un homme et d'avoir une autre lecture de la vie, de pouvoir voyager, rencontrer d'autres gens, d'autres personnes, pour avoir justement un meilleur recul d'où on vient et puis de comprendre à nouveau ce qu'on est véritablement, de quelle appartenance on est et où on va justement.
Christian Carambeu, est-ce que, on l'a compris, vous êtes pleinement satisfait de votre carrière? On serait évidemment à moins. Est-ce que là au milieu, il y a quand même quelques regrets ou des choses qui manquent là derrière?
Non, parce que je suis quelqu'un de très optimiste et positif.
Christian, pardon, est-ce que oui, le dites-moi. Fait, si on revient à la Coupe du Monde, oui. de ne pas avoir joué tout le match, toute la finale, d'avoir oui. été remplacé, hein, se faire à la 56e minute, enfin on ne va pas forcément oui. compter les minutes. Est-ce que ça, par exemple, de ne pas avoir disputé, c'est un regret ou non ?
Non, parce que ça fait partie de mon quotidien, hein, ça fait partie de mon métier, d'être remplacé ou de remplacer quelqu'un d'autre. Donc, au contraire, ça c'est, on est éduqué ainsi, on est formé ainsi, à savoir qu'on est peut-être, soi-disant, les titulaires, mais on peut devenir aussi des remplaçants. Et que finalement, on est un groupe de 23-24. Et c'est pour ça que dans une sélection nationale, c'est un groupe, c'est fondamental. Il faut justement des interactions qui restent, je dirais, positives. Où là, justement, chacun doit se mettre au service des uns et des autres, et surtout au collectif. Donc là-dessus, c'est plutôt le choix du sélectionneur qui va mettre en sorte qu'il y a une différence qui se crée sur un terrain, etc. Oui.
Si on regarde, justement, on en a parlé, hein, il y a évidemment ce qui est sur le terrain, il y a ce qui est en dehors.
Oui.
On a parlé de la Légion d'honneur. En 95 et 98, vous avez également été élu meilleur joueur d'Océanie. Vous oui. êtes parrain et ambassadeur de multiples associations et causes.
Surtout de Champéry, c'est de Champéry.
et ambassadeur de Champéry, on va quand même le souligner, c'est important, évidemment. C'est magnifique, du reste, hein, pendant qu'on y est, en parenthèse. Ça, c'est aussi important, à vos yeux, ce qui vient, disons, en même temps, la Légion d'honneur ou après. Vous accordez beaucoup d'importance, ces distinctions, on va les appeler comme ça.
Waouh. Ben c'est vrai que c'est...
Sur la Légion d'honneur, ça a fait drôle, par exemple.
En fait, pour moi, la Légion d'honneur, on le donnait à ceux qui ont fait beaucoup pour la nation ou ceux qui sont morts pour la nation. Donc, il est évident que c'était assez difficile, dans la mesure où c'est vrai qu'on avait accompli un espoir sportif. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai remarqué que finalement, on avait accompli quelque chose de grand pour la France. Et que tout le monde se souvient dans le monde entier. Effectivement, le label français s'est vendu, s'est propagé, s'est démultiplié à ce moment donné. Et là, j'ai vu cette répercussion. Oui, on fait partie de ceux qui ont pu bouger, ou fait bouger des choses en France. Oui.
En étant un petit peu méchant, vous voulez dire que vous avez plus marqué des esprits que l'équipe de France de 2010, c'est ça, en Afrique du
Sud ?
Non,
mais... mais je crois qu'il y a des hauts et des bas. Nous, on a réussi à... pérenniser cette image-là en 2000. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a une phase où on n'a pas justement prévenu justement peut-être une baisse de régime ou de concentration dans cette équipe de France. Peut-être que les revendications étaient légitimes pour eux, hein, mais c'est vrai que quand on est à l'extérieur, c'est difficile, surtout pour nous qui a amené quelque part cette équipe de France très loin avec une image positive. Et l'arrivée où ben, l'apartheid venait juste de finir. Et cette génération-là n'a peut-être pas eu cette conscience de dire qu'ils sont dans un pays où on s'est battu pour la liberté.
Christian Carambeu, on va peut-être revenir tout à l'heure, hein, on aura l'occasion sur cette équipe de France. Si on revient, parce qu'on parle effectivement souvent des très bons moments, hein, de la fin d'une carrière, on ne parle pas souvent du tout début, vous avez fait allusion tout à l'heure. Alors vos débuts, ça s'est passé, avec des copains, avec votre famille. Vous avez été élevé, enfin, on peut le dire, dans une tribu, hein, c'est ça. Donc, racontez-nous un peu comment ça se... Ça fait un petit peu drôle quand on est ici, c'est vrai, de parler de tribu, hein, oui. Parce que nous, on s'imagine
mais
des tribus.
Mais pour moi, c'est ma tribu ici, maintenant.
Exactement. À chaque... on change de tribu, c'est la tribu des Valaisans, effectivement. Racontez-nous un tout petit peu ces débuts, ça se passait comment?
Au départ, ça se passe d'abord comme tous les gamins du monde entier, hein, avec les camarades de classe dans un cours de récréation ou... Là, on s'amuse, ou, etc. Ou bien sûr, on est mixte parce qu'il y a des filles aussi qui jouent avec nous. On peut jouer.
Elles jouaient, les filles, là, à cette
époque. Oui, bien sûr.
Déjà.
Mais on n'avait pas de ballon. Donc, on construisait nous-mêmes nos ballons. On créait nous-mêmes nos ballons, soit avec des toiles d'araignée. Avec des toiles d'araignée, un ballon. Premier ballon qu'on faisait. Après, bien sûr, on l'a fait avec les scotchs, avec les papiers, carrément des papiers et des chiffons. Et là, on scotchait autour. Et...
Ça ressemblait déjà plus à un ballon.
Ça ressemblait. Mais. Figurez-vous, quand vous allez au Brésil, j'étais visiter le musée à Sao Paulo, c'est pareil. Mais eux, encore plus. Mais c'est pour dire que finalement, peu importe où on est, on peut toujours créer un ballon. Et justement, le ballon est universel, d'où cette popularité du monde du foot, en fait.
Est-ce que vous sortiez déjà, bon, c'est peut-être pas à vous de le dire, il faudrait demander à vos camarades de jeu de l'époque, oui. Mais est-ce que vous sortiez déjà du lot à l'époque avec,
non.
avec ces ballons comme ça ?
Je crois pas. C'est simplement, c'est que moi, j'aimais pas perdre. Ça, oui, ça,
c'est important. Hein.
Je n'aimais pas perdre, je pleurais quand je perdais. Très mauvais perdant, mais bien sûr, en arrivant en métropole, j'ai su canaliser justement ces sentiments-là. Et oui, mieux intégrer un collectif, oui.
Il y en a d'autres qui sont sortis des champions qui jouaient à l'époque avec vous. Vous êtes le seul qui avait percé.
Il y en avait d'autres beaucoup plus talentueux. Malheureusement, après, c'est le mental qui agit. Donc, je sais que dans ma génération, il y avait des plus talentueux que moi, plus techniques, etc.
Mais moins accrocheurs.
Voilà, mentalement, ils n'ont pas pu s'adapter. Parce que je crois qu'il faut s'adapter à tout, aux environnements. Comme un être végétal qui se déplace, qui va à gauche ou à droite, mais qu'il faut savoir se muer, qu'il faut savoir se transformer dans un autre environnement. Ouais.
La suite après, ça a été le FC Getcha, c'est ça à Nouméa. Là, c'est la première
Exactement.
Fois que vous avez vu un vrai ballon, des vrais maillots.
C'est la première où j'ai une licence, en fait. Premier club où j'ai ma licence qui a été fabriquée par mon frère, mon aîné, qui lui était déjà dans cette équipe et voulait absolument que je joue avec mes anciens camarades de classe. Mais moi, j'étais déjà focalisé pour les études. Donc, un mercredi, on m'appelle pour jouer un match. Comme je voyais mes camarades de classe, je lui dis « Allez, je vais jouer quand même avec les copains ». Au fur et à mesure, je ne savais pas que j'avais ma licence. Mais en fait, quand j'ai joué, c'est par rapport au vestiaire. C'est-à-dire que quand j'arrive dans un vestiaire, dans ce vestiaire où il y avait mes copains, ils avaient tout. C'est-à-dire que je voyais qu'il y avait des paires de chaussures, des maillots, et ça fait la différence. Parce que nous, on jouait pieds nus.
Quel effet de mettre les chaussures comme ça pour la première fois, Christian, en taper dans un vrai ballon, c'est... vous vous rappelez
justement,
ça
Justement, en fait, ces sentiments-là font que c'est comme si on était un professionnel, enfin, comment expliquer. C'était, oui, pour nous, c'était...
C'était énorme,
C'était beaucoup. Parce que figurez-vous que pour Noël, par exemple, nos parents, quand ils nous offraient un cadeau, c'était soit une paire de tangs, soit une pomme. En fait, tous les denrées rares qui viennent de métropole, pour nous, c'était un cadeau du ciel. Donc, ça nous suffisait. Donc, une paire de chaussures, des maillots, c'est beaucoup. C'est extraordinaire, oui. C'était extraordinaire.
Après, si on continue un petit peu, donc il y a eu ce club du FC Getcha à Nouméa. Et ensuite, ça a été assez vite. Hein, là, vous êtes
exact.
Quand même
Avec le FC Getcha, très beau souvenir dans la mesure où, avec les juniors, on a su gagner tous les matchs, on a su gagner tous les tournois, toutes les compétitions en Nouvelle-Calédonie. Donc là-dessus, je me suis formé, mais en même temps, avoir une culture de victoire. C'est-à-dire que notre équipe n'a jamais perdu, peut-être une fois, mais le reste, on a gagné toutes les compétitions. Coupe de Calédonie, champion junior, district, régional, etc.
Ensuite, il y a eu le départ à Nantes. On continue d'avancer un petit peu dans le temps.
Bien
là,
sûr.
Évidemment, c'est le moment. Comment s'est fait ce transfert quand même
Très difficilement.
On passe pas de la Nouvelle-Calédonie, disons, à Nantes comme ça.
Oui. Hein, Mais c'est surtout c'est la relation que j'ai avec ma famille. C'est-à-dire que la relation est très utérine, dans la mesure où j'appartiens à un clan. Et on peut pas laisser partir quelqu'un comme ça. Donc il faut dialoguer, faire des palabres avec les oncles, avec la maman et bien sûr la famille du papa.
Le papa était assez pour hein, que vous partiez.
Le papa, oui, parce que oui, il est fan de foot, il aime le football et... Bien sûr, il est coach de foot en même temps. Il entraînait toute la tribu, on va dire comme ça.
C'est ça.
Et moi, je me souviens que lui, avec le sifflet, tôt le matin, 5h du matin, il sifflait. Et tous les joueurs de la tribu sortaient des cases, parce qu'on avait des cases, et ils allaient courir à 5h du matin. Son coup de sifflet me réveillait tous les matins. Mais en même temps, à 5h du matin, c'était aussi le moment des Coupes du Monde. Quand il y avait des Coupes du Monde, nous, on regardait à 5h du matin les matchs de Coupes du Monde. Donc, 5h du matin, pour moi, c'est toujours beau. Soit le coup de sifflet de mon père qui réveillait tout le village, ou toute la tribu, ou justement, c'est l'équipe de France qui jouait en 86, etc., etc.
Parlez-nous un petit peu de Nantes. Allez, là, on fait le saut.
Voilà,
vous êtes à Nantes. Non, c'était bien. On a parlé de comment est-ce que vous êtes parti de Nouvelle-Calédonie.
Voilà.
Et comment est-ce que c'est passé, allez, vos 5 ans à Nantes. Hein, il y a eu un titre de champion de France pour couronner le tout.
Bah, Nantes, c'est une nouvelle étape de ma carrière. Et c'est surtout une nouvelle famille. Hein. Parce que c'est vrai, ils m'ont logé, nourri et blanchi.
Là, vous étiez très jeune, hein, quand vous
Très jeune,
êtes...
j'avais 17 ans.
C'est ça.
Donc j'arrive là et je rencontre pour la première fois Coco Ciudo, qui pour moi est un papa, d'abord un coach, mais aussi un papa qui a su me parler, qui a su me guider, et surtout qui a su me donner des informations, puis une culture footballistique. Parce que oui, il y avait une richesse en lui, qu'il a pu partager à certains joueurs, à qui il avait sous son aile. Et bien sûr, il m'a maîtrisé, dans la mesure où moi j'étais un peu... C'est pour ça le surnom cheval fou, parce que j'allais à gauche, à droite. Et pour lui, je déstructurais ou je cassais quelque part l'ambiance tactique. Donc il fallait me maîtriser.
Il fallait me recadrer un petit peu.
Donc, peu importe où je jouais. Mais ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure où il m'a donné plusieurs rôles, j'ai su m'adapter à chaque rôle qu'il me donnait. Et c'est là où j'ai compris que le foot devenait un métier. Au départ, c'était plus un jeu. Mais par la suite, quand on a une fonction où on se doit de s'occuper simplement de l'adversaire ou d'une position, et on n'a pas beaucoup de liberté, mais ça fait qu'on agit pour l'équipe. Donc voilà, je suis dans cette notion-là où il faut être là pour l'équipe.
Vous avez été défenseur, milieu aussi oui. Défensif, mm-hmm. On l'a dit. Vous avez toujours joué à ce poste-là quand vous étiez jeune, justement. Vous avez un peu tout essayé.
J'étais gardien de but.
Vous avez fait un petit tour d'horizon.
Il faut savoir qu'en mécanique, j'ai fait du handball, j'ai fait du tennis, mais en même temps, j'ai fait de l'athlétisme. Donc, quelque part, j'étais un peu complet athlétiquement.
Comme gardien de but, ça donnait quoi?
Comme gardien, oui, j'ai des photos encore. Enfin, non, pas ici, mais... non, ça va. Ça, je lisais mes trajectoires... J'anticipais même mes trajectoires. Non, là, ça va. Bon, ça, c'était amateur. Hein. Maintenant, avec les effets que donnent les ballons, ça va être très difficile pour moi de pouvoir... Mais dernièrement, par exemple, en Ligue des Champions, la finale à Wembley, j'ai joué avec les All-Stars de l'UEFA, gardien de but. J'étais l'homme du match.
Carrément. Ouais, mais ça veut dire quoi? Un blanchissage, comme on dit.
À 7 contre 7, donc c'était facile.
Et si on avance un petit peu dans le temps, on a dit deux Ligues des Champions au Real Madrid, oui. Ça c'est...
C'est le summum pour moi.
Voilà, racontez-nous un petit peu l'ambiance là de nouveau, peut-être des temps
forts, l'ambiance d'un grand club. Alors je vais vous dire, l'ambiance déjà ça vient de Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, mon grand frère qui est fan de foot, découpait tous les journaux de foot, de 11, de Mondial, et il y avait les Saint-Etienne, les Stéphanois de Michel Platini. Et bien sûr, les Puskas et les Di Stefano, que moi je ne connaissais pas. Je connaissais plus les Stéphanois que les Madrilènes quand j'étais gamin, ça c'est clair. Mais en arrivant en Italie, bien sûr la Sampdoria, où là je joue l'Euro 96 en Angleterre, tout de suite il y a un appel d'un grand club qui est le Real de Madrid, où là M. Sanz, Lorenzo Sanz, me voudrait dans son équipe. Ben moi, pour moi c'est...
Ni d'une ni deux.
Non, c'est même pas ça, c'est que je croyais que c'était une plaisanterie.
Carrément.
Oui, ben on ne croit pas. Oui, je ne croyais pas que le Real Madrid pouvait m'appeler.
S'intéresser à vous.
Donc je raccroche en fait.
Ah oui, carrément. Ah, c'était le canular téléphonique.
Oui, je croyais que c'est un canular, oui. Donc en fait, c'est l'intendant de l'équipe de France qui me dit, mais Christian, il faudrait que tu décroches le téléphone, c'est vraiment le Real Madrid.
C'est pas Laurent Gérard, mais c'est vraiment le Real de Madrid,
oui, exactement.
C'est ça.
Exactement. J'ai repris le téléphone et là, on m'a parlé en espagnol. J'ai dit, ok, d'accord, c'est bien vous. mais décontenancé, bien sûr, parce que je ne savais pas quoi dire. Et j'ai dit, si véritablement vous êtes aucun problème, je viendrai chez vous, mais malheureusement, je suis sous contrat avec la Samp. D'ailleurs, l'épisode a duré 6 mois, et par la suite, j'ai pu signer au Real Madrid. Et là, c'est cerise sur le gâteau. Sachant que, bien sûr, pour avoir la cerise, il faut vraiment faire la crème, il faut vraiment faire...
Il faut lever la
levure, etc.
C'est ça.
Etc.
C'est ça.
Donc... Oui, mais là j'appartiens à un groupe ou à une philosophie qui fait qu'on est en confiance, qui fait qu'on est dans un environnement incontestablement pour nous rendre meilleurs, pour nous bonifier. Mais en même temps, la culture de la victoire qu'on a appris peut-être au FC Gaïcha et à Nantes est là démultipliée par 10 exponentielle 12. Ou... voilà. Parce qu'il y a toute une histoire, il y a tout un poids, il y a tout un madridisme, etc. qui vous enveloppe, qui vous emmène vers la victoire en fait. Et puis...
Quand on a joué, Christian, dans un grand club comme celui-ci, ou même dans les autres, hein, oui. La Sampdoria et le Pirée, etc., est-ce qu'on suit toujours attentivement plusieurs années après le
oui.
Real de Madrid? Vous êtes au courant
bien sûr.
Vous avez des antennes, vous êtes toujours, vous ratez pas un match. On se sent toujours impliqué comme si on y était, c'est ça?
Oui, parce que justement, grâce à cette affiliation où on a été joueur, il y a aussi le club des vétérans. Moi, j'appartiens aussi à la Fondation du Real Madrid et aux vétérans du Real Madrid.
Ça veut dire quelques matchs de temps en temps avec
cette
formation.
Oui, bien sûr. Oui. Tous les ans, on joue un match. Donc, à Bernabeu, où il y a toujours 80 000 personnes qui viennent. Donc, bien sûr, on perpétue, on continue à émouvoir les gens avec ce qu'on a fait, ce qu'on a pu donner, etc. Donc, quand vous voyez que pendant la vente, en 3 heures de temps, Bernabeu est plein, c'est pour vous dire que, il y a quand même cette relation entre public et anciens joueurs qui fait qu'ils reviennent.
Quand vous allez aujourd'hui à Madrid, au Real, les jeunes savent qui vous êtes.
Oui, bien sûr. Oui.
On se souvient de Christian Carambeu. Oui, ça. Faut pas être gêné, hein, c'est bien, hein, bravo. c'est comme ça dans tous les clubs dans lesquels vous avez passé. Allez, on va faire un petit tour. La Sampdoria,
en Italie, c'est pareil, oui.
C'est pareil, Middlesbrough.
Borough.
Olympiakos, le Pirée aussi.
Oui, c'est pire, oui.
Dernièrement, si on parlait du Servette, Christian, parce qu'on est en train de faire.
C'est pareil, hein.
C'est pareil.
Oui.
Quel souvenir du Servette, ça a été un peu tragique quand même, non?
Non, parce que ça reste une grande expérience pour moi. C'était une première pour moi de vivre ce genre de situation, d'échec, parce que j'ai toujours eu
le succès partout.
Oui, voilà. marquant et marqué. Et voilà, c'est pour ça que ça me plaît de revenir au stade, d'aider, pourquoi pas, le Servette de Genève. Et... Parce que quand j'ai signé au Servette, c'était pas pour une demi-saison, c'est pour des années. Et on m'a coupé cette envergure, on m'a coupé cette envie ou cette volonté d'aller plus loin. Voilà, donc,
Sur le moment, vous en avez évidemment voulu, enfin, sûrement.
Non, jamais. Parce que pour moi, j'étais aussi responsable par rapport à ces jeunes gamins qui, eux, avaient un avenir qui pourrait être bonifié, qui peut être amélioré. Malheureusement, il n'y a pas eu, je dirais, par concours de circonstances, il n'y a pas eu ce qui pouvait se faire. Et malgré nos envies de récupérer par-ci, par-là, des finances, d'essayer d'aider, on n'a pas réussi.
Vous êtes retombé sur vos pattes.
Pour moi, c'était plutôt un échec personnel que... Voilà, pardon ?
Vous êtes retombé sur vos pattes, financièrement parlant, finalement ?
Oui, non, mais je veux dire, ce n'est pas le Servette qui fait que... Voilà, mais c'était...
Non, mais c'est important quand même, hein. On signe un contrat, on est là pour ça aussi, hein.
Oui, mais pour le cas de Servette, ça, c'est les juges qui décideront, mais voilà, pour l'instant, c'est vrai que, oui, ça m'a marqué cette expérience, et c'est pour ça que, quand j'ai vu dernièrement que le Servette avait besoin, voilà, j'étais présent pour essayer de comprendre ce qu'il pouvait avoir au cas de besoin, oui.
Votre implication, ça a été d'acheter, ouais, c'est ça, hein, des briques, hein, dans le cadre du Servette.
Oui, un abonnement, voilà, etc.
Ça pourrait être, ça risque d'être autre chose. Il y aurait plus à faire pour vous. Enfin, vous voudriez faire plus.
Si je peux, oui, mais ça, faut laisser.
Qu'est-ce que vous voudriez faire dans le cadre du club? Qu'est-ce qui serait bien pour vous?
Qu'est-ce que serait bien pour moi?
Vous verriez où?
Pour l'instant, je veux rester, je dirais, tranquillement à l'extérieur pour avoir plus de recul et voir ce qu'il est en train de faire, justement, Hugues, parce que c'est extraordinaire ce qu'il est en train de réaliser, de pouvoir aider le Servette à concrétiser un projet. Donc au contraire, je crois qu'il faut être derrière lui, il faut être solidaire. Et j'invite justement ceux qui aiment le Servette à venir aider Hugues, parce que je sais qu'à travers ce qu'il a réussi à faire avec le hockey, on peut le refaire aussi avec le football club. Ouais.
Ce que vous aimiez, en tout cas quand vous étiez jeune, c'était de marquer des buts. Hein, c'était oui. Ça c'était important. Si je vous dis le 11 octobre 95, là on revient un tout petit peu dans les grandes années, ça, qu'est-ce que vous avez fait le 11 octobre 95?
Je crois que c'est en Roumanie, oui. Où là on qualifiait l'équipe de France pour l'Euro 96.
Ouais. Et puis vous, personnellement?
Je marque, je fais marquer, oui.
Le seul but en équipe de France?
Aussi, oui. Mais j'aurais pu marquer d'autres. Mais j'en ai marqué, mais on m'a refusé, oui. Moi, je me souviens, j'ai marqué contre l'Allemagne. Soi-disant que j'étais hors-jeu, mais...
C'est faux.
Ouais. Ah, oui, mais sinon, la plupart du temps, je donne plus de ballons que j'en marque, oui.
Quand on parle équipe de France, hein, si on revient un petit peu... on a l'impression, mais vous me dites si je me trompe, si que vous n'avez jamais été vraiment... C'est pas le mot fier, mais presque un peu gêné de porter ce maillot de l'équipe de France. Et disons que vous faites partie, mais vous n'êtes pas le seul, hein, à préciser, d'avoir jamais chanté la Marseillaise. Remarquez que si c'est pour la chanter, il faut ou pas connaître les paroles, peut-être comme certains, c'est mieux. Pourquoi en fait?
En fait, j'ai toujours été fier de porter le maillot, de la tunique bleue, ça a toujours été une grande fierté. Et ça, je le répète et je le confirme. Il est évident que moi, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que quand je pars de Nouvelle-Calédonie à 17 ans, il y a des effets, ou plutôt des implications politiques difficiles à vivre dans cette période-là, où bien sûr, j'ai perdu des familles, j'ai perdu des amis. Voilà, c'est concours de circonstances, c'est vrai, c'est politique. Mais voilà, c'est dans mon fardeau, on va dire comme ça. Et en 96, quand on s'aligne, un personnage politique français dit qu'il y a trop de noirs dans cette équipe. Même moi, je comprends pas. Donc, c'est par le silence que j'ai pu répondre à ce monsieur, en disant, voilà, même si... Dans la colonie où j'étais, qui est la Nouvelle-Calédonie, on nous apprenait par cœur, c'est vrai, de la maternelle jusqu'au lycée, chanter la Marseillaise.
Et les ancêtres. Pas le cœur.
Oui, et les ancêtres des Gaulois. Voilà.
Le cœur n'y était pas, tout simplement.
Non, c'est pas ça, c'est que le cœur y était, mais il y a une prise de conscience quand même, à savoir qu'on devient adulte, on sait qui on est, on sait d'où on vient, qu'effectivement, on ne peut pas se permettre de dire des choses, sachant que chaque entité ou chaque identité est différente des uns des autres. Et qu'il y a aussi une prise de conscience, et on a aussi justement des racines, et on ne peut pas se permettre de dénigrer cela, surtout quand on impose des choses à des gens. Donc voilà, c'était plus une réaction, et bien sûr, quand on est dans une tempête médiatique, c'est clair, il est évident que ça a démultiplié la chose. Mais encore une fois, oui, dernièrement, Mathieu Kassovitch a fait un film sur l'or de la morale, qui explique un peu le pourquoi, etc. Mais voilà, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de mon vécu. Mais tant mieux, ça a réveillé l'essence de chacun pour savoir d'où je viens, qui je suis finalement. Et apprendre aussi aux gamins que véritablement, oui, il y a des endroits dans le monde qui peut-être appartiennent à la France, mais qui sont aussi différents. Dernièrement, Mayotte est devenue français, mais c'est à 99% musulmane. Donc Voilà, il y a ce métissage-là, culturel, politique, etc. Mais encore une fois, voilà, il y a ce brassage qui fait qu'on appartient au monde, on appartient à la France, mais il y a une différence. Il faut aussi respecter justement ces cultures primaires, ces cultures premières. Si M. Chirac a ouvert un musée pour justement les peuples premiers, c'est pour dire que véritablement une reconnaissance de ces peuples. Et quelque part, il y a aussi peut-être une vérité à faire découvrir. Et voilà, donc grâce au foot, j'ai pu donner un écho d'où je viens et qui je suis, finalement. Mais ce n'était pas dire que je n'étais pas bien dans cette tunique, au contraire. C'est pour ça que quand je voyage avec mes potes partout dans le monde, avec France 98, au contraire, c'est une grande fierté, oui.
Christian Carambeu, on va laisser un tout petit peu de côté peut-être le foot. Hein. On va passer à une partie un tout petit peu plus personnelle. On l'a dit, on est à Champéry.
Oui.
Moi, j'ai presque envie de dire...
Faut revenir.
Non, c'est un peu méchant, mais qu'est-ce qui vous a pris de venir à Champéry? Entendez par là, beaucoup de vedettes vont plutôt à Verbier, à Montana, à Gstaad ou à Zermatt.
Vous avez vu, vous avez tout dit.
Voilà, exactement.
Voilà,
vous avez envie de faire autrement.
C'est ça. Pourquoi je dois aller là-bas?
C'est ça.
Là où ils sont.
Vous n'avez pas envie de suivre comme un mouton?
Non, en fait, je voulais être tranquille. Voilà, hein, surtout c'est que quand j'étais au service de Genève, déjà avec les chèques, avec les trucs, enfin bref. Je venais assez souvent pour visiter plus des amis qu'autre chose, et à l'arrivée, tiens, pourquoi pas ici? Mais bon, au départ c'était à la rigolade, hein. Et puis au fur et à mesure... Et
vous depuis... êtes tombé amoureux d'un coup, où il a fallu quand même venir plusieurs fois?
Non, mais moi, attends, alors, moi j'aime les montagnes. Si j'étais un grand athlète, je crois que c'est grâce aux montagnes en Nouvelle-Calédonie. Il faut savoir qu'il y a des montagnes en Nouvelle-Calédonie, et j'ai joué assez souvent. Je faisais de l'oumaillon, c'est ça? On est comme ça? Enfin, on avait des jeux, et ces jeux-là, c'est d'être dans les arbres, mais ces arbres-là, c'est dans les montagnes. C'est-à-dire que nous, on est obligé de sauter. C'est-à-dire que pour monter, et quand je...
L'acrobranche, peut-être, on appelle
oui,
ça.
Oui, des fois de l'acrobranche, mais surtout des collines. Enfin, il faut monter, et c'est pas facile de courir en montant. Mais moi, je sautais. C'est-à-dire que pour moi, c'était facile. Quand je suis arrivé en France, quand on faisait des tests, c'était facile pour moi. Parce que ici en France, les terrains sont plats, donc courir sur plat, c'est facile. Et encore plus, comme je suis habitué à courir dans les montagnes, voilà.
Mais vous continuez la même chose à Champéry, non? Entre-temps, vous êtes un peu calmé, entre-temps.
Non, quand même, c'est trop haut. Nouvelle-Calédonie, on n'a pas 3000 mètres, on a 900 ou 1000 le plus haut, mais non, 800 et quelques le plus haut.
Vous cherchez la tranquillité, ça c'est clair.
J'ai cherché la
petit
tranquillité,
peu
mais le
mais est-ce que vous êtes
rattrapé
à, est-ce qu'on peut, est-ce, voilà, justement, est-ce qu'on peut se balader comme ça incognito à Champéry?
Ah oui, largement, mais que ce soit à Champéry ou toute la Suisse. Hein.
D'accord, on ne vient pas vous importuner, vous êtes tranquille, pas plus que
non,
ça.
Non, au contraire, non, là je suis tranquille, que ce soit je vais au Michel ou au National, c'est tranquille.
Il n'y a pas de souci.
Bien sûr, ils savent qui je suis, mais voilà. Il n'y aura pas d'autographe. Ceux qui demandent, ça veut dire qu'ils viennent d'Italie ou d'Espagne. Non, mais c'est vrai en plus.
C'est ça. Les Suisses sont assez... C'est vrai qu'ils sont
connus
pour être assez respectueux des gens connus. Hein, c'est ce que les gens connus aiment bien. Si on revient, hein, on va un petit peu du Valais, on retourne chez vous en Nouvelle-Calédonie, sur un point de vue un peu plus personnel.
On n'a pas des lacs. Hein. Nous, on a des rivières.
Vous avez, c'est ça. On a compris que vous avez des arbres et vous pouviez vous accrocher aux branches.
Disons que... Alors, peut-être qu'ici, les espèces endémiques, ce sont les vaches valaisannes.
C'est ça.
Mais en Nouvelle-Calédonie, on a quand même le cagou.
Le cagou, racontez-nous.
Alors, le cagou, c'est un volatile qui aboie.
Oula, c'est un chien volant. Non.
Qui nous réveille tout le matin.
On ne le trouve que chez vous.
Que chez nous, c'est une espèce endémique. D'ailleurs, la Nouvelle-Calédonie, comme l'Australie, il y a des espèces endémiques très spécifiques, non répertoriées d'ailleurs, et maintenant classées par l'UNESCO comme héritage naturel qu'il faut protéger.
Si on parle de chez vous, sur un point de vue un peu plus personnel, hein, vous êtes 18, hein, vous avez 17 frères et sœurs, c'est ça? Comme ça, on ne va pas tous évidemment les citer, parce qu'on en a pour un moment, mais en gros, qui fait quoi, qui est qui, combien de... C'est beaucoup.
En fait, on est tous dans le monde de l'enseignement. Mon papa était enseignant, tout le monde, bien sûr, comme toute catégorie socio-professionnelle, on a envie de devenir comme le papa. Donc, on a suivi, bien sûr, des études, et ma sœur est institutrice, mon grand frère aussi, enfin, tout le monde est dans l'enseignement, sauf trois ou quatre que j'ai amené avec moi pour faire des études en France, voilà.
La relation entre vous, au jour d'aujourd'hui, vous parlez à tout le monde,
bien sûr, mais c'est une tribu se déplace aussi, hein.
D'accord.
Non, je crois que... Il y a une hiérarchie dans le clan.
Vous êtes le cinquième, hein, je crois, on
peut
le préciser.
Oui, je suis au milieu, moi.
C'est ça, au milieu, enfin presque.
Sachant que, oui, il y a le droit d'aîné, ou d'aînesse, pardon, d'aînesse. Où là, on respecte carrément les anciens. Et là-dessus, oui, personne ne sort de cette voie-là. Donc,
ça veut dire que tout le monde s'entend avec tout le monde.
Oui, bien sûr, obligé. Bien sûr. Mais chez nous, la parole est sacrée. que effectivement, quand il y a un problème, eh ben, c'est le dialogue qui va nous permettre d'être bien, d'être tranquille. Oui. Oui, il faut se regarder, il faut se parler, et non pas via Internet ou via téléphone ou SMS.
Votre famille a suivi pas à pas votre carrière?
Oui, parce que j'arrivais souvent invité.
Certaines fois.
Oui, j'ai souvent invité dans tous les endroits où j'ai été, que ce soit à Madrid ou en Italie ou même en Grèce. Donc, non, ils m'ont tous suivi, oui. Maintenant, c'est moi qui me déplace parce que comme j'ai arrêté ma carrière, je vais les voir en Nouvelle-Calédonie.
Si on revient chez vous, justement, Nouvelle-Calédonie, vous êtes un ambassadeur pour l'Océanie, toute la région.
Oui.
Hein. Si vous deviez nous parler, mais comme ça, très rapidement, de la Nouvelle-Calédonie, pour des gens qui ne connaissent pas, moi par exemple, hein, j'ai pas eu la chance encore de me rendre chez vous, qu'est-ce que vous diriez comme ça en une minute sur le.
Écoutez, je vous ai parlé de Kagou. C'est un des espèces rares, donc endémiques du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Mais en même temps, quand on parle de barrière de corail, souvent on l'imagine l'Australie, mais nous on a aussi le plus grand lagon du monde, qui a été aussi classé par l'UNESCO. Donc déjà un super lagon, je ne vous dis pas les plages qu'on a, mais encore une fois, voilà, c'est le peuple aussi qui vit, qui respecte la nature. Et d'ailleurs, quand on parle d'environnement, l'Europe, voire le monde entier, est en train de courir après une idée, je veux dire, écologique, alors que nous, on le vit depuis des temps. Et je crois que, voilà, la vérité ou les ressources ou l'exemple, ce doit être dans les îles où là, on essaie de préserver la nature, on sait comment les eaux peuvent monter, comment essayer de trouver des solutions. Et je crois que les Iliens ont ce savoir-faire. Et je sais qu'on peut donner des idées à ceux qui recherchent, je dirais, cette idée écologique. Oui.
Ça, c'est le message que vous essayez de faire passer sur votre pays?
Non, de tous les Iliens. Moi, j'ai fait des documentaires aussi pour
une télévision,
pour,
c'est ça
pour Planète, par
Planète
exemple,
plus, pour citer.
Effectivement, tous les Iliens apprécient leur environnement et préservent leurs environnements. Pourquoi? C'est une survie pour eux, mais surtout c'est que ça appartient à leur héritage. Donc c'est culturel et anthropologique. Donc ils ne peuvent pas se défaire de tout ça. C'est la vie pour eux.
Du même coup, comme français aussi, vous appréciez la Corse. Ça,
Ah oui, la Corse...
ça doit être votre... En droit de prédilection, vous avez joué,
oui,
du reste.
J'ai joué encore, je me suis marié
de
encore.
Football. Vous avez fini votre carrière là-bas, du reste.
Exact, oui. Ben, c'est vrai que j'aurais pu terminer ici. Mais voilà, donc j'étais voir des amis à Bastia. Et oui, encore une fois,
la Corse,
ça ressemble.
C'est un rappel, ça ressemble,
oui,
c'est ça.
Oui, ça ressemble à la Nouvelle-Calédonie, oui. Effectivement, oui. Bon, nous, c'est vrai que c'est plus grand, mais...
Si on regarde Christian Carambeu aujourd'hui dans vos activités, si on devait parler de ce que vous faites, donc
oui.
On a compris, vous êtes ambassadeur, hein, vous êtes sollicité aussi comme ancien joueur à gauche, à droite.
Oui.
Aujourd'hui,
par la FIFA et l'UEFA. Ouais.
Exactement. Aujourd'hui, si on parle un peu crûment, vous gagnez des sous, comment? Vous gagnez de l'argent? C'est pas forcément ce que vous cherchez à faire. Si oui, vous étiez dans la boulangerie industrielle, c'est ça? Ça continue?
Ouf.
Ou ça a été un épisode?
Alors, c'était un épisode. Mais c'est vrai que ça a été une expérience pour découvrir le monde du business. Hein, parce que avant d'être aux USA, j'étais au Maroc d'abord avec des partenaires espagnols. Et par la suite, bien sûr, aux USA. Les USA, malheureusement, c'était pendant la crise anti-française. Où là, c'était très difficile de pouvoir vendre des petits pains, des pains au chocolat ou des fours. Puisque c'était des produits français. Les Américains ont boycotté des produits français, donc on a changé d'enseigne. Mais cela dit... On a mis ça de côté parce que c'était très difficile à cette époque-là. Maintenant, pour rebondir à tout ça, oui, on a créé avec des amis la marque Fortin. D'ailleurs, je vais vous laisser un catalogue.
Volontiers, magnifique.
Ça, on ne sait jamais, on va pouvoir habiller la radio.
Oui,
je vous laisse apprécier le catalogue.
Alors, commentez-nous un petit peu le catalogue, parce que c'est vrai qu'en radio, on se rend un petit peu moins compte.
Alors, on est équipementier, donc on fait du tout. Du fitness, bien sûr, des temps libres, on va dire en italien, tempo libero, leisure. On va dire comme
ça. Et vous êtes le créateur, l'initiateur de la marque,
c'est ça? Non, on est trois. Attention, c'est une compagnie suisse.
Ah, en plus, il fallait peut-être commencer par... on allait dire par le commencement, voilà. Mais c'est presque ça.
On a créé il y a un an.
Alors avec trois amis, on peut peut-être les citer.
Exactement.
Non, ça leur fera plaisir. C'est Andrea Piccio, c'est
voilà.
ça.
Et puis et bien sûr,
et Philippe Vic, voilà. Également avec nous aujourd'hui. La Nouvelle-Calédonie vote son indépendance...
Oui, 14 et de, ou 18. 2014-2018.
Vous, aujourd'hui, comme ça, on a encore peut-être le temps.
Je crois qu'il y a une prise de conscience...
Quel est votre sentiment? Quel est votre avis?
Il y a une prise de conscience collective, dans la mesure où il y a un équilibre qui s'est établi dans le territoire, à savoir qu'il y a eu des transferts de compétences, il y a eu justement un équilibrage économique qui a été fait grâce, bien sûr, à l'outil qui nous est, donné, qui est le nickel, à l'heure actuelle. Donc le nickel a permis aux Néo-Calédoniens de prendre conscience qu'ils sont aussi, ils font partie du monde. Au départ, on était juste une île isolée qui appartenait à la France. Maintenant, on a une matière première dont le monde entier en a besoin, en un gisement très très grand. Maintenant, on peut parler à des collaborateurs chinois, coréens, japonais, australiens, canadiens, et surtout bien sûr français, puisque ça appartient à la France quand même. Et de cette prise de conscience, on sait que notre avenir... est aussi économique. Donc, même s'il y a des penchants politiques très forts pour l'indépendance, on voit que pour faire survivre ou pour faire vivre le territoire, par rapport au Vanuatu qui est à côté, par rapport au Fidji, c'est très difficile de pouvoir se passer, je dirais, de l'Europe. Parce qu'on appartient à l'Europe grâce à la France. Donc, c'est vrai que c'est aussi stratégique, dans la mesure où on est dans le Pacifique. Je crois que quand on parle de la puissance maritime de la France, on en fait partie. Et que ce soit l'Océanie tout entière, qui est aussi plus grande que l'Europe, ben on donne à la France justement une puissance maritime incroyable. Pareillement pour la puissance militaire, où là, à Mururoa, on a fait des essais. Encore une fois, c'est dans nos eaux qui ont été faits.
Vous n'étiez pas tellement pour, hein, du reste.
Non, j'étais... Oui. Oui, d'ailleurs, regardez les effets néfastes qui sévissent à l'heure actuelle en Polynésie, où là, il y a trop de cancers, enfin bref, trop de maladies. Oui, très difficile. Maintenant, dans cette mesure-là, j'espère avoir une indépendance peut-être économique, à savoir qu'on peut avoir des liens avec nos voisins. Parce que c'est vrai que pour l'instant, les relations sont directes. C'est France, Nouvelle-Calédonie. On n'a pas justement un marché océanien, alors qu'on peut faire vivre un marché océanien. Pourquoi ? Parce qu'on dépend toujours de l'Europe. Parce qu'on ne peut pas, par rapport à l'Europe, dépendre d'un autre marché, etc. Donc j'espère que d'ici là, on aura plutôt cette idée-là ou cette optique. Voilà.
Christian Carambeu, vous qui êtes un formidable ambassadeur, on a dit de toute la région qui défendait admirablement votre île.
Pourquoi je reviens à ça ? Parce qu'il y a une cherté de la vie qui fait que quand les produits arrivent de France, c'est très difficile, c'est très cher. Tandis que s'ils arrivent de la Corée, d'Australie, ou de la Chine, ou du Japon, c'est beaucoup moins cher parce que le transport est moindre, etc. etc. ou d'Australie, ou de la Nouvelle-Zélande. Pour l'instant, on n'a pas justement ces accords qu'avec nos voisins du Pacifique. Et ça, c'est très difficile.
Politiquement, vous n'avez jamais voulu vous impliquer plus ?
Non, on m'a interdit.
Pourquoi ?
C'est comme ça. Mon grand-père m'a interdit, donc je ne fais pas de politique. Voilà, c'est tout.
On devait y être. On va peut-être, Christian Carambeu, terminer avec notre questionnaire de Proust. Alors, c'est un questionnaire qui est revu et corrigé. Donc, le but étant de faire des réponses, si possible, un peu courtes.
Ou...
Oui, ça peut être... Non, ça peut être... Vous pouvez répondre...
Par oui ou par non.
Voilà, non, ou okay. assez librement.
D'accord.
Le principal trait de votre caractère.
Waouh. Le principal trait de caractère. Je vais dire généreux. Généreux, c'est dans tout, en fait.
Physiquement, si vous pouviez changer quelque chose sur vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange ?
Non. Moi, j'aime ce que m'a donné la nature, ce qu'a donné mes parents. Je respecte ça.
Chez une femme, vous êtes attiré par quoi en premier ?
Waouh ! Chez une femme, je suis attiré par quoi ? Si je dis son intelligence, tout le monde va rigoler. Si
je... Bon, ça suffit peut-être pas, c'est vrai. Mais c'est important.
On va dire son attitude. Voilà.
Un tête-à-tête un soir dans un grand restaurant, comme ça, vous avez la possibilité, ce serait avec qui ? Avec qui est-ce que vous rêveriez de passer une soirée ?
Avec Dieu. J'aurais dit refaire le monde.
Un petit peu dans le même contexte, si vous aviez une baguette magique maintenant, vous en feriez quoi ?
Je la cacherais, en fait. Je la cacherais parce que je crois que le monde est ainsi fait, qu'il faut respecter la vie de chacun pour respecter le monde, le temps. Voilà, tout simplement.
Vous avez une devise, Christian Carambeu ? Devise, une phrase comme ça, le matin, quand vous vous levez, quelque chose qui vous pousse un peu en avant, qui vous
booste ? Que la vie est belle, malgré tout que la vie est belle, c'est à nous de la rendre meilleure encore, mais la vie est belle, oui.
Christian Carambeu, l'émission s'appelle Le Défi. Mm-hmm. Quel sera votre prochain défi ?
Mon prochain défi, c'est de faire venir peut-être France 98 ici à Champéry. Ça, c'est un grand défi. J'espère qu'ils vont répondre présent à mon appel. En tout cas, oui, ça, c'est mon défi très cher pour justement la commune de Champéry. Ouais.
Et il viendrait dans quel contexte?
On va discuter avec les présidents de la commune quand même, mais pourquoi pas un match de foot à la salle de Palatium. Pourquoi pas faire du tennis. Enfin bref, voilà. Ça, c'est un défi que je me lance, oui, pour la commune.
Christian Carambeu, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci d'avoir écouté Direct News, le podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, ce que l'on espère, eh bien pensez à mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Abonnez-vous à notre flux pour ne manquer aucun des prochains épisodes pour suivre mes entretiens avec différentes personnalités. Retrouvez-nous sur notre site direct-news.info et nos différents médias sociaux Facebook, Instagram, Twitter, Direct News, MR en majuscule.